Aujourd'hui, la masterclass de Marie Beauvau avec Anaëlle Pijat.
Alors, avant de véritablement commencer, Marie Beauvau, je me permets de rappeler quelques éléments de votre parcours. Depuis une quinzaine d'années, vous avez participé à de nombreuses biennales, Venise en 2011, Thessalonique en 2013, la Triennale de Milan en 2014. On peut voir votre travail dans vos galeries, Kamel Menour à Paris, OSL à Oslo, en Norvège. Et puis, vous avez exposé aussi dans de nombreuses institutions, le California Museum of Photography, le Musée d'art contemporain de Chicago, et actuellement, et plus près d'ici, les Rencontres d'art, bien sûr, et puis le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille. Pour en revenir à vos débuts, Marie Beauvau, vous êtes originaire d'un village d'Espagne à côté de Grenade, et je crois que vous dites volontiers que quand vous étiez enfant, vous vouliez être sculpteur. Mais alors, l'art était très présent dans votre famille?
Donc, non, en fait, l'art n'était pas du tout présent dans ma famille. Donc, ma maman, ma grand-mère, mon grand-père, tous ne savent ni lire ni écrire. Donc, notre culture était une culture orale. Il y avait, dans la maison, il n'y avait aucun livre, absolument aucun livre. Il n'y avait pas de peinture. Et la seule chose qui était présente et qui m'a personnellement énormément marquée, interrogée, c'était une photographie qui était dans la chambre de ma grand-mère. La maison, c'était une maison toute blanche en Espagne avec différentes terrasses. Et dans la chambre de ma grand-mère, il y avait la photographie d'une vierge portant un Christ mort sur ses genoux. Cette Vierge, elle était carapaçonnée dans une robe dorée. Elle pleurait des larmes de sang. Et elle portait cet enfant, ce corps mort, c'est une Pietà. Hein. Donc c'est Mater Dolorosa qu'on trouve en Espagne. Et pour moi, ce qui était très, très, très étrange, très troublant dans cette photographie, je peux encore, quand je ferme les yeux, je la vois parfaitement. C'était une photographie d'une sculpture. Et je me demandais toujours si c'était la réalité. En fait, j'arrivais pas véritablement à faire la différence entre une véritable personne photographiée et puis une sculpture. Pour moi, ça avait le même degré de présence et de réalité.
Je crois que vous dites aussi que vous avez appris le vocabulaire de la peinture et de la sculpture dans les églises. Mais alors, quelles églises c'était et qu'est-ce que vous y avez appris au fond?
Alors, l'église, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où va se dérouler évidemment une cérémonie religieuse, d'abord la messe. Bon, la messe était quelque chose d'assez ennuyeux pour moi, hein, je dois dire, mais bon, ça faisait partie de mon éducation, hein, et je passais mon temps en fait à regarder tout ce qui était sur les murs, tout ce qui était peint sur le plafond, tout ce qui se trouvait en fait dans les vitraux, l'ensemble des images qui étaient présentes dans l'enceinte de l'église, que ce soit les sculptures, les peintures, les vitraux. Et bien sûr, ça résonnait aussi avec le texte rythmé cadencé de la cérémonie. Et donc c'était un grand temps d'absorption, aussi d'absence, où juste la litanie du mot venait accompagner la plongée dans les peintures. Alors ça pouvait être les quatre évangélistes, par exemple, peints aux quatre angles de l'église. Et donc c'était aussi un vocabulaire extrêmement, à la fois extrêmement précis et avec des qualités physiques. Le blanc des nappes sur l'autel, leur tombée architecturale, le rouge de la fleur, l'œillet en Espagne, l'œillet c'est la rose du pauvre, mais le rouge des plaies du Christ, le vert de l'olivier. En fait, il y avait déjà toute une qualité plastique et coloriste qui était très forte parce que toujours incarnée à l'intérieur non seulement d'une matière, mais aussi d'une cérémonie, d'un protocole.
Alors ici à Arles, vous exposez à l'église des Trinitaires, peut-être n'est-ce pas tout à fait un hasard, ou peut-être que si. En tout cas, la scénographie de l'exposition est très particulière. Vous avez accroché toute une série de photos le long de l'abside qui dessine très serré sur toute la hauteur de la simèse et qui dessine comme une sorte d'iconostase, ces murs d'icônes dans les églises orthodoxes. Et je lisais que vous avez intéressé l'idée, l'observation dans les églises orthodoxes des fidèles qui embrassent les icônes, que ça donnait comme ça une sorte de sentiment d'incarnation, enfin, d'effet d'incarnation qui se mêle au regard. Est-ce que dans l'exposition d'Arles, il y a aussi cette idée d'incarnation, peut-être de matérialité aussi des images ?
Oui, il n'y a pas un seul art contemporain, il n'y a pas une seule image. Il y a le terme d'image, c'est un terme qui est très traître en définitive, puisqu'il renvoie à des choses tellement multiples et variées. Mais disons que moi, ce qui m'a marqué, alors peut-être simplement à partir de ce que je racontais précédemment, c'est-à-dire une photographie, mais qui a une valeur supérieure à une simple image, qui a cette dimension d'icône, hein, non pas iconique, mais icône, c'est-à-dire d'une incarnation, une image incarnée. Donc, avec une qualité matérielle très, très propre. C'est aussi des pratiques tout à fait païennes, hein, il faut pas s'y tromper. Et effectivement, moi, ce qui m'avait énormément marqué, lorsque j'ai réalisé ce projet en Russie, j'ai eu le souhait de regarder d'autres lieux où peut se trouver de l'art. Alors, bien sûr, en général, on va regarder les galeries, les musées. Évidemment, je fais ça aussi. Mais par exemple, les églises, là, les églises orthodoxes, non plus qu'en Russie, il y a une présence très, très forte. Hein, il y a un retour du religieux qui est très, très fort actuellement. Donc il y a des gens, on rentre dans des églises qui sont habitées, qui sont occupées. Et effectivement, ce qui me marquait beaucoup, c'est de voir certaines icônes qui étaient vraiment littéralement salies de baiser. Et donc il y avait une présence tout à fait charnelle de l'image. Donc moi, quand je travaille la photographie, je pense que cet aller-retour entre quelque chose qui est à la fois très charnel, la neige, par exemple. La neige, c'est éminemment une couleur, mais c'est éminemment aussi une matière. C'est une texture et c'est un corps. Et en même temps, c'est une métamorphose. Donc, c'est un ensemble de choses, ce qui fait qu'on est pris entre l'abstraction la plus radicale, je pense évidemment à Malevitch, mais aussi une matérialité inouïe. Et donc c'est très étonnant, c'est ce type de paradoxe qui déplace un peu le regard et qui déplace complètement la perception.
Peut-être faut-il rappeler que cette exposition Stance que vous montrez ici à Arles est un ensemble de photographies faites dans un train. En Russie, un train qui se déplace et qui montre des paysages russes, donc tout ce que vous venez d'évoquer, la neige, les villes de la Russie et tous ces quais de gare que vous montrez dans ces images.
Oui, en fait, tout le projet, il est, on peut dire que c'est le déroulé d'un voyage, mais d'un voyage qui n'a pas forcément non plus de but, puisque son objet, c'est précisément d'être dans le voyage, c'est-à-dire ce moment où la traversée s'effectue. Donc il s'agit de différents trains. Donc j'ai pris parfois des trains qui parcourent des très grandes distances. Mais à d'autres moments, ces grandes distances, je les ai parcourues à partir de petits trains, simplement parce que ces trains entraient plus profondément dans le pays, s'arrêtaient plus fréquemment, ce qui permettait de rentrer en détail dans le pays. Et chaque photographie est faite au moment où le train s'arrête, les portes s'ouvrent, et là quelque chose se découvre, hein, mais de manière très, dans un premier temps, très mécanique, très physique, simplement parce que les portes s'ouvrent. Et qu'à ce moment-là, le train va cadrer le paysage, le lieu dans lequel on vient de s'arrêter. Et effectivement, c'est l'hiver, donc il y a une présence de la neige. Bon, pour moi, l'hiver, c'est absurde de dire ça, mais l'hiver, c'est la saison russe. Il y a une rencontre évidente. Et puis, l'hiver, c'est aussi, c'est la neige. Et la neige joue un rôle extrêmement important à l'intérieur de ce projet, parce que la neige va gommer, tout ce qui est de l'ordre de la frontière, tout ce qui est les espaces urbains, le quai, tout ce qui finalement construit, alors d'abord des ruptures, un chemin, un quai, une route, vont disparaître, vont s'effacer. Donc il y a une sorte de continuité ou d'intégrité qui est restituée au lieu, au paysage, une forme d'unité. Et puis ensuite, le principe du seuil va pas du tout fonctionner de la même manière, parce que quand la porte s'ouvre, on est déjà directement dehors, parce que justement on n'a pas ces intermédiaires qui nous permettent déjà d'acclimater le paysage. On est projeté directement à l'extérieur.
Quittons quelque temps ces contrées russes pour revenir au bord de la Méditerranée. C'est une question qui se pose souvent dans cette masterclass de France Culture. Marie Beauvau, quelle a été votre formation ? Comment vous vous êtes formée à l'art ?
En fait, ma formation, elle est multiple. D'abord, c'est les arts plastiques. J'ai suivi un cursus à la fac en arts plastiques et puis aussi en littérature. Et je m'étais particulièrement intéressée d'ailleurs à la littérature et à la photographie, hein, parce que j'ai fait un mémoire là-dessus. Donc à ce moment-là, pour moi, la photographie, c'était un sujet, c'était plus un sujet d'intérêt, une passion, mais ce n'était pas ma pratique. Donc en fait, je faisais comme la plupart des artistes, c'est-à-dire j'avais une pratique très multiple qui associait divers médiums.
Et qu'est-ce qui a été le déclic ?
Je pense que il y a une raison toute simple. C'est un ami qui m'a offert un appareil photo, tout simplement. Et cet appareil photo, c'était un 6-6, c'est-à-dire c'était un appareil qui dégageait le visage. C'est-à-dire que c'était pas un appareil où la visée se faisait en collant l'œil contre un viseur, mais au contraire où l'appareil était loin du visage, était posé soit dans les mains à mi-corps, soit éventuellement sur un trépied, mais de telle sorte que mon visage et le regard pouvaient se promener hors d'un cadre très contraignant. Et cet appareil m'a passionné immédiatement parce que il permettait d'aborder les choses et la question du cadrage tout à fait différemment, mais d'abord dans une posture physique, dans une relation à ce qui était vu, qui était très différente.
Vous évoquez là une sorte de hasard, presque de circonstance, mais l'idée de vocation, vous y croyez ?
Non, je crois pas à l'idée de vocation. Par contre, je crois à des moments de, comment dire. Alors, je vais utiliser le mot d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, il y a des rencontres avec des œuvres. Moi, je sais que, à l'école, quand j'étais au collège, je suis allée voir une exposition de Sam Francis. J'avais pas encore 12 ans. Et ça a été un choc extrêmement brutal. J'étais complètement perturbée par cette découverte, cette peinture. Elle me faisait peur. J'étais vraiment effrayée. Je suis allée chercher mon professeur de dessin pour lui demander qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit, moi, je finis pas mes peintures et vous me reprenez. Puis cette peinture-là, elle est pas finie. Alors expliquez-moi, je voudrais que vous me disiez pourquoi lui, il finit pas ses peintures et pourquoi moi, je dois finir mes peintures. Donc c'était vraiment, cette rencontre, elle m'a, donc c'est une rencontre avec une œuvre. Et à ça se rajoutent d'autres rencontres, et c'est ce faisceau de, à la fois de hasard, mais aussi d'amitié, puisqu'en fait ensuite, ces œuvres, elles nous accompagnent, et en tout cas moi, elles m'ont accompagnée, qui Oui, qui finalement qui vont déboucher sur des possibilités, sur des choix, sur des tas de choses.
Vous parliez des liens avec ce professeur, de cette conversation avec ce professeur. Vous croyez qu'on peut apprendre à faire de l'art ?
Ah oui, je pense qu'on peut. Oui, je pense qu'il faut. Il faut absolument pas négliger tout ce qui est les apprentissages. D'abord parce que à un moment, c'est évidemment qu'on est en dialogue avec les autres artistes, peu importe qu'ils soient vivants, qu'ils soient nos contemporains ou qu'ils appartiennent au siècle passé. Et même, on espère bien pouvoir aussi, dialoguer avec le futur. Je pense qu'il faut pas toujours un artiste, c'est pas quelque chose qui vit dans une tour d'ivoire et qui naîtrait d'une petite graine comme ça du jour au lendemain. On devient artiste en étant en contact avec l'art. Je crois qu'il n'y a pas d'autres raisons. C'est ce qui va nous pousser, c'est ce qui va nous construire.
Si on en revient à la question de la photographie même, Marie Beauvau, vous êtes photographe. Vous parlez d'artiste. Vous vous dites artiste. Vous vous dites photographe.
Moi, c'est pas véritablement une question qui me préoccupe. Je veux bien être photographe, je veux bien être artiste, et je suis probablement les deux et probablement des tas d'autres choses aussi. Je crois qu'il n'y a pas une nécessité à véritablement clôturer une identité à l'intérieur d'une pratique. Pour moi, la photographie, c'est également, c'est de l'art également. Même si on sait bien que aux origines de la photographie, c'est une technologie qui surgit et donc qui est toujours assez étonnante. Le principe de la photographie, c'est avant tout une invention technologique et qui à l'origine ne trouve pas son utilité et son usage immédiatement. Et donc Il y a une multitude d'usages très contradictoires. On a toujours tendance à penser la photographie autour de ses usages positifs, mais la photographie, c'est aussi l'invention de la photographie policière. C'est le 19e siècle, c'est la Bertillonnade, c'est l'idée aussi de ficher, de marquer les individus. Donc c'est un ensemble de choses qui sont très contradictoires et je pense que c'est aussi ce qui est absolument intéressant dans la photographie. Puis c'est aussi un processus technologique, industriel et donc qui est aussi marqué par un phénomène d'obsolescence. Donc on est dans un croisement et s'il faut prendre des qualités de pur et d'impur, il y a quelque chose d'impur dans la photographie et qui est fascinant et qui est une matière vivante et intéressante justement parce que on va pas immédiatement la mettre dans un hôtel qui lui serait dévolu de toute éternité comme la peinture, je ne sais pas. Et puis la peinture, en fait, elle est pleine de photographies.
Et vice-versa.
Et vice-versa, donc.
Dans vos premiers travaux, photographiques et vidéo d'ailleurs, vous êtes intéressé à un certain nombre d'éléments qui sont des grands constituants de la photographie. Vous avez d'abord photographié beaucoup la nuit, mais la nuit, au moment où elle se transforme en jour, vous vous êtes intéressé à la lumière. Ces réflexions sur la lumière vous ont conduite à des réflexions sur le temps. Et si je ne me trompe pas, ces réflexions sur le temps à des réflexions sur l'espace, sur des architectures et puis aussi sur des paysages urbains. Est-ce qu'il y a dans votre travail jusqu'à présent une sorte de progression comme ça, de la nuit vers l'espace ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Non, je crois que ça existe en même temps. C'est-à-dire que j'aurais pas tendance à le couper en deux sections qui seraient séparées. Je pense que si on prend la nuit, bon, si on prend le temps en le prenant dans un espace justement à l'intérieur d'un cycle, on va dire le cycle le plus élémentaire, celui qui nous atteint tous, c'est la journée. Et si on veut faire une contraction très forte de notre vie, on pourrait dire que tous nous sommes marqués par deux segments, le segment blanc-noir, nuit, jour, et ça, ça constitue l'unité de la journée. Mais quand on parle de la nuit, la chose qui est, je pense que pour tout le monde, très éminemment ressentie, c'est d'abord qu'on est dans un espace quand on est dans la nuit. On est dans un espace parce que, évidemment, on sent bien qu'on est dans une autre temporalité. Et c'est à ce moment-là que la question de l'espace et du temps, en fait, on voit bien qu'elles se rejoignent parfaitement, parce qu'il y a une, on peut plus les dissocier à cet endroit-là. La nuit, on est l'exemple, je trouve le plus marquant, parce que, évidemment, les pratiques sont tout à fait différentes, mais pour la photographie, c'est, ou pour la peinture, la nuit, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est essentiel parce que c'est le moment où notre regard rencontre une limite. C'est une limite très très forte. C'est une limite essentielle. C'est le noir. C'est le moment où justement on ne peut plus voir. Et là, ça s'arrête. Et donc il y a un retrait. Donc la nuit, c'est cette rencontre-là. C'est aussi accepter que certaines choses échappent au regard, échappent à la vue, échappent à cette pulsion voyeuriste. Et puis aussi exhibitionniste, qui est le propre de nos sociétés contemporaines. Est-ce qu'on voit n'importe quelle grande cité nous montre aussi combien, en fait, on passe notre temps à faire reculer cette présence de la nuit en l'éclairant. Et donc, moi, ce qui m'intéressait aussi dans un premier temps, mais d'une manière très simple, hein, c'était qu'est-ce que c'est qu'une lumière naturelle ? Qu'est-ce que c'est qu'une lumière artificielle ? Et une lumière artificielle, on voit bien ce que c'est. C'est une lumière qui est fixe. C'est une lumière qui n'a pas de battement, n'a pas de cœur vivant. C'est une lumière morbide. C'est une lumière de foire foraine ou de cimetière. Hein. Il y a vraiment, c'est une lumière qui fige. Elle produit le même type d'ombre qui ne va jamais bouger. Elle a la même qualité de brûlure. Alors qu'à l'inverse, une lumière naturelle, c'est une lumière vivante. Elle va bouger, elle va produire des ombres très différentes. Elle va travailler les corps tout à fait autrement. Et bien sûr, elle va travailler les surfaces différemment.
Marie Beauvau, poursuivons ces présentations dans cette masterclass de France Culture. J'aimerais que vous nous fassiez entrer dans votre atelier. Vous avez un atelier ?
Oui, j'ai un atelier.
À quoi il ressemble, votre atelier ?
Mon atelier, il est... mon atelier, il y a plusieurs lieux dans cet atelier. Il y a plusieurs pièces, des pièces qui sont plus ouvertes à une pratique du papier, du dessin, j'allais dire quelque chose qui ressemble presque plus à un atelier de fabrication. Puis il y a une partie qui serait plus liée à celle du bureau, où il y a des ordinateurs, où il y a des livres. Mais aussi pour moi, l'autre atelier, c'est la ville de Marseille dans laquelle je vis. Et je pense, enfin, moi je l'imagine vraiment, ou en tout cas je le pratique vraiment, comme aussi... le grand atelier, c'est une ville que je connais bien, dans laquelle je me promène beaucoup, et elle joue ce rôle d'atelier, parce que en fait l'écart entre ce qu'on voit entre ce qu'on voit et ce qui a lieu, il n'est jamais fixé une fois pour toutes. Et donc il y a un renouvellement permanent. C'est une ville qui est extrêmement poreuse à tous les éléments de la réalité contemporaine. C'est une ville très pauvre, c'est une ville très, très populaire, avec une topographie extrêmement variée, avec des sites très précis, avec la présence de la mer, avec la présence du port, avec la présence des collines. Donc il y a un ensemble de choses qui font que, et puis bien sûr les gens qui vivent, qui font que cette ville, pour moi, c'est aussi l'atelier.
L'idée d'un projet vous vient au cours de promenades dans Marseille. Par exemple, si on prend la double série des cours intérieurs des immeubles de la Joliette et la série des grisailles qui sont ces plafonds des porches de ces mêmes immeubles. Comment est né ce projet, par exemple ?
Bon, ben voilà, là, c'est des lieux que je connais bien, avec lesquels j'ai une intimité d'autant plus forte que j'ai une amie qui habite dans ces immeubles. Donc, je suis allée la voir, je la vois souvent. Le projet de ces photographies est né du fait que chaque fois que je rentrais dans la cour intérieure où elle vit, j'avais d'abord un sentiment d'enserrement extrêmement fort, le sentiment d'une falaise. On est dans un immeuble haussmannien où on retrouve quelque chose de l'architecture carcérale. D'ailleurs, elles sont contemporaines et on le ressent. Et donc, mon premier geste, tout le temps, et c'était ensuite je l'ai repéré, c'était de lever la tête, de porter le regard vers le ciel, vers le carré de ciel qui se découpait de manière très, très géométrique, très précise, par l'enceinte architecturale. Et à force de répéter ce geste, à un moment, j'ai décidé de travailler sur cet espace.
Et alors là, comment ça se passe? Vous prenez des notes, vous dessinez, vous faites des photos, des esquisses?
Dans ce cas précis, comme j'avais une telle familiarité avec le lieu, que ça a été plus des dialogues et des discussions avec les gens qui habitaient dans le lieu. Puis au début, quand j'ai commencé, il y avait une famille de 10 personnes qui vivaient dans, je crois, 20 mètres carrés, donc les parents et 8 enfants. Il y avait plusieurs personnes qui étaient entre le squat, et donc c'était un peu difficile d'arriver avec un appareil photo parce qu'on ne savait pas trop qui j'étais. Donc c'était un peu inquiétant pour les gens. Donc là, dans ce projet précis, ça a été plus le temps des dialogues. Et donc, en fait, il a fallu du temps simplement pour que je devienne quelqu'un de familier. Donc là, ce travail, c'est la familiarité qui a été créer une familiarité avec les personnes qui vivaient là. Et donc après, le travail a pu se mettre en place parce qu'au début, il me tombait des choses pas directement sur moi, mais disons que autour de moi, de temps à autre, il y avait des choses qui tombaient. Donc c'était un petit peu, il y avait une vraie agressivité. Et au fur et à mesure, donc j'ai travaillé 2 ans sur ce projet en venant régulièrement, avec des fois des temps de prise de vue très longs, puisque la prise de vue commence au moment où la nuit arrive. Donc on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est au moment où la nuit arrive, mais c'est surtout aussi au moment où les lumières s'éclairent à l'intérieur des appartements.
Il se passe combien de temps entre ces moments de repérage dont vous parlez, cette familiarisation avec le lieu, et le moment de la prise de vue?
C'est très variable, en fait. C'est très variable parce que, par exemple, sur la série des photographies que j'ai fait sur un campement de Rome, qui était à côté du marché Opus à Marseille, et ils étaient vraiment cachés sur une partie de la voie de chemin de fer qui était désaffectée. Ils étaient cachés sous un pont. Je suis venue de nombreuses fois et ça avançait pas. Et donc, en fait, j'arrivais le soir et je me suis rendu compte que ça marcherait pas comme ça. Donc là, parce que le soir, tout le monde est énervé, tout le monde est excité, il y a une espèce de tension, il y a une montée en tout. C'est comme si il y a une violence qui émerge en fin de journée. Donc en fait, j'ai changé complètement mon moment d'approche et je suis venue à l'inverse le matin très très tôt. Parce que le matin, justement, chacun était aux sorties du sommeil. Il y avait un moment pacifique qui était, comme le grand fleuve. Il y avait un moment où une entente pouvait avoir lieu, où on pouvait se parler. Et donc, mais ça a été long aussi, et ça s'est joué à un fil. C'était très, très délicat à mettre en place.
Et quand vous n'êtes pas dans ces moments de repérage et de prise de vue, est-ce que vous avez des rituels, j'ose pas dire une journée type, mais des moments comme ça qui rythment vos journées de travail, des méthodes de travail particulières?
Je saurais pas dire, en fait, parce que un travail, c'est aussi, par exemple, un projet, le projet des cours. Pour moi, c'est toujours aussi des moments où je me mets à regarder d'autres, où je réapproche des œuvres, parfois que je connais, parfois que je connais pas ou que je connais moins bien. Et donc souvent à ce moment-là, je nourris le travail par une attention plus soutenue. Par exemple, quand je travaillais sur les grisailles, j'étais allée voir des peintures de Richter. C'était des grands monochromes gris. C'était une rencontre qui était importante pour moi parce que précisément c'était du gris et j'avais besoin de regarder ailleurs, de regarder le gris ailleurs. Et là, on parlait d'incarnation et c'est toujours pareil. On pourrait penser le gris du côté du concept, mais le gris c'est aussi éminemment une matière incarnée. C'est l'érosion, un certain type de disparition. C'est aussi une couleur souvent qui a des connotations symboliques assez négatives. C'est une couleur plus sacrificielle. À un moment, en fait, on fait une rencontre et cette rencontre, elle fait basculer les seuils de... elle élargit le champ de la réalité. C'est-à-dire que moi, quand je vois un gris dans une architecture et qu'à ce moment, pour parler rapidement de cette série de photographies, c'était des plafonds bourgeois avec des corniches, etc. Mais les d'anciens immeubles haussmanniens et qui étaient complètement déclassés et où en fait on n'a plus pas du tout une population bourgeoise qui vit là, mais en utilisant un mot pasolinien, on va dire des pauvres, tous les pauvres qu'on imagine, hein, donc issus ou non de l'immigration, des Comores, d'Algérie, Tunisie, mais peu importe en fait, hein, dans un premier temps, juste ça. Et alors, les bailleurs de ces immeubles, ils les entretiennent pas du tout, et quand il y a besoin de quelque chose, on fait passer un câble de n'importe quoi, de fil de téléphone, de gaz, etc. Donc ces murs, ces plafonds avaient véritablement alors une dimension de palimpseste, mais aussi une matière sacrificielle, comme si chacune des strates du temps et des présences des habitants avait laissé son empreinte. Il y avait plein de taches de ballons de foot inscrites au plafond, des choses comme ça.
Et cette méthode de travail dont vous parlez, cette familiarisation, est-ce qu'elle change en fonction des projets? Par exemple, quand vous êtes en résidence à Alger ou bien à Lofoten en Norvège, j'ai le sentiment, beaucoup d'artistes aujourd'hui vivent en faisant de nombreuses résidences, j'ai l'impression que pour vous, les résidences deviennent vraiment, quand elles sont dans des endroits lointains, le matériau de vos œuvres,
Pour Alger, il y a aussi quelque chose autour de cette résidence qui est singulier, c'est que c'est une résidence, mais c'est aussi l'appartement d'une amie qui est Zineb Sedira, qui est une artiste. Et donc, en fait, là, les deux se croisent. Zineb me disait, viens Alger, tu es à Marseille, il faut absolument, il y a un vis-à-vis entre ces deux villes, et viens passer du temps, viens travailler. Et donc elle a son appartement personnel qu'elle a transformé aussi en résidence, et elle propose à divers artistes de séjourner chez elle.
Vous parliez avec elle, les regards extérieurs, ça compte dans votre travail? Est-ce que, je ne sais pas, des amis artistes, des commissaires d'exposition?
Alors,
vos galeristes?
Évidemment, les regards extérieurs, ça compte, et ils sont multiples. Donc ça peut être évidemment des amis artistes, c'est évidemment les personnes avec qui je travaille dans l'art contemporain, mais c'est aussi des proches, c'est aussi des gens qui sont pas nécessairement liés à l'art. Ça peut être moi, je sais que je sollicite souvent un ami qui est historien, par exemple. Donc ce sont des croisements, c'est pas forcément simplement un champ de compétences. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment chacun a accès à... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, dans le travail que j'ai fait à Alger, ou dans les cours, c'est pas l'architecture en soi, mais c'est bien comment est-ce qu'on vit dans un lieu. Et ensuite, les allers-retours entre Vivre dans un lieu, c'est aussi poser la question, dans un espace architectural, c'est poser la question de l'intime à des échelles très différentes, hein, l'échelle d'un individu, l'échelle d'une famille, l'échelle d'un appartement, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la sortie. Alors, la sortie de l'intime, ça peut être aussi la sortie du clan. Moi, j'en parle facilement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à l'intérieur de ma propre famille, qui s'est d'abord organisée comme un clan, et il était très difficile de sortir. C'est-à-dire qu'il y avait une peur, il y avait une timidité, il y avait un retrait. Et donc ce passage entre ce qui est le dehors, alors on peut le qualifier de public, on peut aussi garder des choses très très simples comme le dehors, et puis au contraire l'intériorité que va constituer d'abord la première peau, la première couche un peu qui est la maison, et la maison méditerranéenne, c'est une maison qui est très fermée, alors qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Alger, qu'on soit à... En Espagne, moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on a, un rideau, on a des volets, et le regard ne peut pas pénétrer à l'intérieur de l'appartement. Et quand je me souviens de la première fois où j'étais à Amsterdam, et j'étais choquée, j'étais gênée, je ne savais pas où porter mon regard, parce que forcément, j'étais happée par ces grandes fenêtres dans lesquelles j'avais l'impression de pénétrer dans l'intimité. Et cette idée de social transparency, de vraiment de tout est donné à voir. Bien, là, c'est l'inverse. L'intérieur méditerranéen, c'est un intérieur qui est clos et qui coïncide avec à la fois l'intériorité et cette idée du clan quand même.
Puisque dans cette masterclass de France Culture, on rentre vraiment dans tous les détails de la création, enfin le plus possible. Marie Beauvau, je me demandais, au moment de la prise de vue, vous êtes seule, vous avez des assistants, des collaborateurs?
Alors en fait, ça dépend vraiment des projets. Souvent, parfois je suis seule, parfois je travaille avec un assistant qui s'appelle Philippe Casse, qui est avec moi depuis quelques années. Ça va dépendre aussi du type de matériel que j'utilise.
Comment vous le choisissez ?
Le matériel, en fait, en fonction du projet. Par exemple, pour le projet de Stance, il fallait un matériel qui soit assez léger. Moi, je voulais un matériel entièrement mécanique parce que pour pas être dépendant de problèmes de batterie qui se vident parce qu'il fait moins 18 ou des choses comme ça. Donc là, c'était une chambre 4-5. Parfois, ça peut être une chambre 20-25. En fait, quand je travaille, il y a tout un moment qui précède la prise de vue, qui est justement ce moment où on se nourrit, on s'imprègne de tas de choses, en fait. Hein. Ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'imprégnation, mais qui est baroque, qui va du détail le plus concret jusqu'à regarder longuement une peinture ou une sculpture, parce qu'à ce moment-là, ça aide. Et puis après, il y a une absorption complète dans la réalité. Moi, je sais que, en fait, j'ai un moment, en fait, il peut m'arriver n'importe quoi, parce que je suis tellement concentrée et présente que j'ai même l'impression que je vois plus rien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis totalement dans la réalité et en même temps, je me retire aussi dans la photographie à venir, ce qui fait que, d'autant plus que je travaille la plupart du temps en argentique, ce qui fait que je ne vois pas en réalité ce que je suis en train de photographier. Et donc, je suis dans ce battement-là.
Et comment ça se passe ? Est-ce que vous faites beaucoup d'images ? Vous en jetez beaucoup ? Au contraire, vous en faites très peu et vous les conservez beaucoup ?
En fait, je fais... c'est toujours pareil. Comme je travaille la plupart du temps encore avec des négatifs... J'en fais relativement peu et en général, je conserve une photographie sur 10. Mais aussi parce qu'elle se répète, c'est-à-dire que comme je travaille sur de la série, j'explore des nuances de manière le plus intimement, le plus longuement possible. Et donc c'est à ce moment-là, je choisis à l'intérieur de ces nuances. Souvent une photographie sur 10.
Ces séries que vous pratiquez, enfin cette manière de faire des images en série, c'est une manière de montrer différents temps qui sont regroupés. Si on revient au moment, au temps d'une seule image, le temps de pose, comment vous le déterminez? Il me semble que souvent, c'est le sujet même de ce que vous photographiez qui détermine ce temps de pose.
Oui, en fait, c'est extrêmement lié au moment et à la condition. Par exemple, si je reviens sur la série qui s'appelle La voie de chemin de fer de ce campement de Rome que j'ai photographié entre le mois de février et le mois de mai, le moment où il a été détruit. Par exemple, dans ce camp, il y avait donc je l'ai photographié durant la nuit, c'est-à-dire au moment où les gens dormaient et où il n'y avait plus une échelle qui nous donnait une approche, comment dire. On ne pouvait plus préjuger exactement de ce qu'étaient les choses. J'ai choisi ce moment-là, ce moment de la nuit, et également un point de vue qui est le point de vue du suspens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un ensemble de choses étaient suspendues, et peut-être en premier lieu, l'idée d'un jugement. Alors, le jugement sur la misère, c'est le premier qui surgit en permanence. Hein, on documente toujours, malgré tout, à partir d'une idée très précise, et qui est... l'information, c'est aussi ce qu'on est censé croire ou ce qu'on est censé voir. Et donc la nuit, justement, à partir du moment où les gens n'étaient plus visibles, ils étaient présents, évidemment, puisqu'ils dormaient dans le camp, mais ils n'étaient pas là pour nous donner vraiment une échelle d'activité. Et... au début, dans les premières images, il y a un lampadaire qui éclairait ce camp. Donc ce lampadaire, il crée une lumière naturelle, enfin artificielle, mais au sens où elle était présente dans le site. Et au fur et à mesure que le temps a avancé, en fait, les lumières des lampadaires disparaissaient. Et il était clair que ce qui se jouait, c'était de rendre le camp invisible. Et donc, effectivement, mon temps de pose a complètement changé, puisque moi, je rajoutais pas de lumière. Et donc, je suis passée de quelques minutes à quelques heures, parce qu'il y avait très peu de lumière. Et donc là, la lumière, elle est extrêmement active, parce qu'elle-même, finalement, en disparaissant, elle dit quelque chose de très concret de cette nécessité aussi pour ce campement de disparaître du regard, parce que dès qu'il devient trop visible, il est détruit. Donc c'est d'ailleurs une fin annoncée et qui s'est réalisée.
On est vraiment là dans les arcanes de votre création, Marie Beauvau, pour cette masterclass de France Culture. Et je voudrais qu'on parle un peu de la question du cadre, qui est très importante dans votre travail. Pour la série, justement, La Voie de Chemin de Fer, vous déterminez votre cadre. Voilà. Mais j'ai l'impression que souvent, vous laissez advenir le cadre en fonction d'un protocole que vous avez établi. C'est le cas, par exemple, des photographies dans le train en Russie. C'était un peu le cas de la série Alger aussi. La Russie, c'est les portes du train qui s'ouvrent comme l'obturateur de l'appareil de photo. À Alger, c'était une fenêtre de l'appartement qui s'ouvrait sur la ville. Finalement, vos photographies, quand vous faites... Vous transformez vos décors en appareil de photographie.
Oui, en fait, je ne sais pas si je transforme le décor en appareil de photographie, mais c'est vrai que dans le cas de Stance et dans le cas du projet en Russie, effectivement, le train, il fonctionne un petit peu lui-même comme un appareil photographique. Si un appareil photographique, c'est une boîte, l'idée de la boîte noire et de la caméra obscura, c'est le 11e siècle. On dit que c'est les astronomes arabes qui... ont fabriqué ces premières caméras obscura et que c'est les premières images qu'on a pu obtenir simplement par le jeu d'une réflexion et que c'est probablement là l'origine de la photographie. Et d'une certaine manière, le train fonctionnait un peu comme ça. Donc oui, il y a un effet de métaphore de la photographie là qui est redoublé parce que y a ces portes de train qui s'ouvrent et qui se ferment comme un volet dans n'importe quel appareil photographique. Mais le cadre, évidemment, que le cadre, c'est quelque chose qui est qui est passionnant. Et puis le 4, c'est la photographie, mais c'est le cinéma aussi. Hein. C'est-à-dire que le 4, c'est ce moment où il y a une découpe qui va se faire dans la réalité, qui va concentrer sur un espace qui a des propriétés géométriques. Hein. C'est un carré, c'est un rectangle. Ensuite, on va soit le verticaliser, soit l'horizontaliser, mais il va y avoir vraiment des qualités purement géométriques. On le sent très profondément dans le cinéma aussi. Quand j'ai travaillé sur le film La Voie lactée, c'est vraiment ces qualités géométriques du cadre que j'utilise, parce que le film narre c'est un petit conte, c'est une narration autour d'une expérience là aussi assez commune, qui est du lait dans une casserole oublié sur le feu, le lait boue. Il s'échappe de la casserole et puis il est en si bon chemin qu'il sort de l'appartement et qu'il traverse la ville. Et au moment du cadre, en fait, le cadre, ça a un haut, un bas, une gauche, une droite, et ça permet d'aborder toutes les dimensions de l'espace en utilisant ses propriétés. Donc quand, sur un effet très simple de champ contre champ, le filet de lait, le ruisseau de lait entre par la gauche, ressort par la droite, ou par le haut ou par le bas, il y a une sorte de continuité physique du mouvement qui se crée et qui est propre à l'image, qui est propre au cadre. Et c'est une narration qui se met en place par le cadre et pas du tout finalement, c'est pas un récit en mots, c'est les propriétés géométriques du cadre qui mettent en place le mouvement et ensuite la narration.
C'est une sorte de récit silencieux.
C'est un récit silencieux, mais la photographie aussi, elle rencontre toujours c'est sa butée et son malheur ou sa force, selon les cas. Il y a une butée du silence, comme il y a deux autres butées qui sont quand j'étais aux îles Lofoten, il y avait...
En Norvège,
en fait, je réalisais une série de photographies sur les plages. Et j'avais travaillé sur de nombreuses plages en Méditerranée, toujours à la tombée du jour, au moment où la plage se vidait, où tous les papiers, les détritus étaient abandonnés. Comme c'était des plages urbaines, elles étaient une fois encore éclairées par des lampadaires. Et puis, bon, bah, il y avait une partition presque frontale entre ciel, eau, terre, et donc qui est vraiment presque le vocabulaire le plus élémentaire pour dire paysage. Et donc j'étais partie aux îles Lofoten au moment des jours éternels. Et donc j'étais extrêmement déstabilisée parce que à ce moment-là, il n'y avait plus de rencontre possible avec l'obscurité. Il n'y avait plus d'ombre. Il n'y avait plus de nuit. Il y avait, à aucun moment, le regard ne s'arrêtait. Et là, la question de l'aveuglement, elle naît d'une manière radicalement différente. C'est-à-dire que quand on ne fait que voir, il y a un moment où vraiment il y a une dimension fantomatique qui naît de l'excès de visibilité. C'est-à-dire que tout peut arriver parce que on fait que voir. Et c'est très étonnant. C'est une limite aussi.
Ces plages de Lofoten, c'est un peu, Marie Beauvau, une sorte d'inverse presque des plages que vous avez faites au tout début de votre carrière d'artiste, des plages plutôt montrées dans la nuit, des plages de Marseille. Comment vous travaillez ? Est-ce qu'une série se construit en réaction à la précédente ou bien en opposition ou bien comme des suites ? Comment vous construisez votre travail comme ça, dans un plan plus large ?
En fait, les plages, c'est un travail sur lequel que je poursuis encore. Je pense que c'est un travail qui va m'accompagner très longuement parce que bon, la plage, c'est un lieu très important. Hein. On sait que c'est vraiment la limite, c'est le lieu d'arrivée. Alors, actuellement, avec toutes les migrations, évidemment, c'est un lieu qui reprend son caractère, cette fois-ci plus douloureux, mais on est dans la limite et aussi on est dans un lieu d'arrivée, on est dans un moment où effectivement on a l'impression d'atteindre un bord du monde. Et ça, c'est important. Et après, il y a deux grands. Pour moi, il y a les plages méditerranéennes, c'est de l'histoire, c'est de la parole, c'est du récit. Actuellement, c'est le récit des migrations. Du Moyen-Orient, de diverses parties de l'Afrique, mais c'est aussi un champ de bataille perpétuel. Enfin, moi je disais, il y a les empreintes d'Ulysse qui sont en permanence, surtout le pourtour méditerranéen. C'est la parole. La plage, elle est complètement hantée par le récit et par des récits des récits fondateurs, des récits de fondation et aussi des récits guerriers. C'est la guerre de Troie, c'est tout. Donc c'est un type d'espace qui est essentiel, qui est très fort. Alors que dans les îles Lofoten, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est le moment où, au contraire, on a où la parole humaine s'arrête, où on a effectivement, là on atteint une autre limite, mais c'est la limite de la disparition. Hein. On parlait de... en fait, le capitaine Nemo, je ne sais plus quand est-ce que tout à l'heure c'était évoqué, et le capitaine Nemo, il part avec le Nautilus pour se suicider, pour échouer le Nautilus aux îles Lofoten. C'est un, et puis c'est Edgar Poe aussi, c'est le Maelstrom, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut disparaître.
Entre Ulysse et Jules Verne, la littérature est très présente dans votre paysage mental.
Oui, oui, la littérature, elle est très très présente. Parce que je suis toujours très bouleversée par la dimension muette. La brutalité et le silence merveilleux aussi d'une photographie ou d'une peinture et les rencontres, les mots ensuite fabriquent d'autres récits qui permettent, moi ça me permet d'aborder les lieux différemment, c'est-à-dire pas simplement à l'intérieur de dans un moment présent, contemporain, mais de créer une intimité dans l'espace-temps à travers des récits et la littérature. Pour ça, c'est ce qui nous... Il y a un jeu qu'on incarne en tant que lecteur. Et à ce moment-là, on apprend énormément de choses sur un lieu, mais aussi on le vit à travers la parole cadencée de la littérature.
Il me semble qu'il y a un sujet qui traverse toute votre œuvre, Marie Beauvau, et qui en même temps a ce mutisme dont vous venez de parler, qui est la question de l'exil, qui revient de différentes manières, de manière parfois très non dite, et parfois de manière un peu plus explicite. Est-ce que c'est assurément, je crois, une question qui vous a préoccupé à vos débuts? Est-ce que c'est toujours aujourd'hui quelque chose qui vous préoccupe?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'y échapper. Si ça m'a préoccupée à mes débuts, c'était pour des raisons plus personnelles, plus, j'allais dire presque plus égoïstes, autour de ma propre expérience ou de l'expérience de ma famille. Oui, moi j'ai vécu dans mon enfance quelque chose d'assez douloureux autour d'un aller-retour entre deux pays et vraiment deux cultures pour moi, parce que j'avais une partie de ma famille qui était en Espagne et qui passait son temps à me dire tu es espagnol, et puis j'étais scolarisée en France et j'avais ma maman qui vivait en France et c'était un aller-retour qui était difficile parce que j'avais l'impression d'être ni là ni là-bas et d'être dans un exil permanent. Puis ensuite, bon, j'ai vu des choses à l'œuvre, par exemple sur la personne de ma maman, des difficultés autour de la question des papiers, d'ailleurs qui est une des difficultés que j'éprouve en ce moment aussi. Donc obtenir des papiers, alors à l'époque c'est des permis de séjour, des permis de travail, se retrouver confronté à des administrations lorsqu'on ne parle pas une langue, si du surcroît on ne lit ni n'écrit. Moi j'ai souvent fait le traducteur à ce moment-là. Et j'étais extrêmement choquée par la brutalité des protocoles administratifs et bureaucratiques. Donc ça, c'est... Mais bon, voilà, c'est une expérience. Quand je dis qu'elle était égoïste aussi, c'est qu'elle encloche... Elle n'a pas valeur d'exemple ni de loi. Donc, et ensuite, je crois que ça crée simplement... Je pense que l'exil, ça crée un type de culture. Mais justement, là où l'art et la littérature, pour moi, ça a été essentiel, c'est que ce qui m'a permis de vivre l'exil, et cette fois-ci d'une manière très heureuse, ça a été l'art et la littérature.
Pour nous acheminer vers la fin de votre masterclass de France Culture, Marie Beauvau, est-ce que, quand vous travaillez, vous prenez en compte la question du public ? Est-ce que vous pensez aux visiteurs qui ont regardé vos expositions, vos photographies ?
Alors, je ne pense pas aux visiteurs en tant que... Je l'imagine avec moi. Donc, ou alors je me mets moi avec lui. C'est-à-dire que c'est pas une coupure. Je suis aussi le visiteur.
Vous êtes l'artiste dans la société.
Oui, à ce moment-là, oui. Par exemple, pour l'expo de Stans, j'essaie d'être à la fois la mise en place et dans l'espace, en fait, reproduit ce que moi, en tant que voyageur, mais faisant des photographies, par exemple, le fait que quand on entre, on soit face à une porte. Quand on est devant une porte, on est face à une porte. Et donc, quand on rentre dans l'exposition, on est face à une porte. Et à l'inverse, les fenêtres sont latérales, comme dans le train, lorsqu'on est assis, les fenêtres nous accompagnent latéralement. Donc, oui, à ce moment-là, moi aussi, je suis le spectateur et je suis le visiteur.
Merci Marie Beauvau de nous avoir ouvert les portes de votre atelier et de votre exposition pour cette masterclass de France Culture.
Merci Annaëlle.
C'était la masterclass de Marie Beauvau avec Annaëlle Pijat. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.